16h12, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. La noirceur est arrivée dans les dernières minutes, on a 2 degrés à Québec. Et c'est de la neige prévue pour ce soir et cette nuit, 3 à 5 cm, dépendamment où vous êtes dans la région de Québec, et on en rajoute demain 4 cm supplémentaires. La température bouge pas beaucoup, minimum de moins 1 pour ce soir et cette nuit. Demain, un maximum à moins 1 degré. Toujours des rafales de vent jusqu'à 40 km/h. Samedi, des nuages avec un maximum de moins 1. Et dimanche, de la neige avec un maximum de moins 3 degrés. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de nous écouter. Si vous faites partie des chanceux qui allaient quitter la voiture dans les prochaines minutes, premièrement, bravo, vous avez sauvé le trafic.
Bravo!
Et deuxièmement, bien, on vous rappelle qu'il y a l'application Boulevard qui est disponible. Vous pouvez nous suivre également au blvd.fm ou pourquoi pas allumer le Twitch, twitch.tv, la chaîne BLVD barre en dessous FM. Audrey, dans la circulation.
C'est difficile en ce moment si vous êtes sur la capitale, direction ouest entre Henri IV et Laurentienne, ouest entre Bourg-Royal et Laurentienne, Robert Bourassa, direction nord entre le boulevard Laurier et la capitale, encore super difficile de circuler. Quelques problèmes à prendre en compte si vous êtes sur Henri IV nord, c'est un ralentissement inhabituel à la hauteur de la capitale. Quelques troubles aussi dans le coin de Shannon, devant la base militaire. Dans les deux directions, rue de la Bravo, c'est au ralenti. Direction sud, sur Henri IV, à partir de Charest jusqu'au pont, c'est difficile. Des problèmes également sur Duplessis sud jusqu'au pont La Porte. Puis pour ce qui est de la 20, c'est la 20 direction ouest surtout, entre la route du président Kennedy et chemin des îles. Évidemment, il y a autre chose. 88-971-1021 par texto.
Elle est de retour en studio avec nous parce que les histoires judiciaires s'accumulent. Journaliste au soleil, Judith Desmeules. Judith, bonjour.
Allô.
Ça va bien?
Ça va bien, vous autres?
Hey, on va commencer. Ça va pas pire. Ça va pas pire.
C'est vrai qu'on répond jamais.
Ouais,
hein?
C'est ça.
Comme, elle nous demande, elle est super polie. Ouais.
Ça va bien, vous autres? Bien. Ah, fuck off.
C'est comme... Laissez faire.
Pas de plus
affaires. On va commencer avec une histoire que tu nous as parlé en début de semaine. L'histoire d'un type qui semble lourd dans tous les sens du terme, Zacharia Risky.
Oui, ça, c'est toi qui le dis, hein, en passant.
Oui.
Qui semble. Comment,
t'as-tu peur qu'il me poursuive?
Non, qu'il te suive.
Il y a de l'air d'avoir la gâchette rapide là-dessus. Hein.
Zacharia Risky est accusé d'harcèlement et d'intimidation sur 3 juges et 2 procureurs de la Cour municipale de Québec. C'est de l'intimidation sur des personnes, du personnel du système de justice. C'est un peu rare et c'est ça, ça donne des débats intéressants. On a appris en début de procès avec le premier témoignage, donc le premier plaignant, qui est un juge de la cour municipale, qui, lui, un bon matin, il fallait qu'il gère la cause de Zacharia Risky en cour municipale. C'était une infraction au code de la sécurité routière.
Okay.
Souvent, c'est des on appelle ça les petits crimes, là, qui sont à la cour municipale. C'est
relativement banal.
L'étiquette, ouais. Ou ça peut être du criminel, mais des accusations déposées par voie sommaire, donc d'une gravité moindre. Et le matin où ça devait être le procès de Zacharia Risky, il n'était pas présent. Donc, le juge est retourné à son bureau, puis on avait laissé un document à son attention au greffe de la cour. Et le document était un document de 51 pages que Zacharia Risky avait confectionné et qui s'adressait à lui, mais qui parlait aussi de ses collègues, d'autres juges de la cour municipale. Puis ce qu'on comprend, c'est que c'est des juges et des procureurs qui avaient été impliqués dans les dossiers de Zacharia par le passé. Et puis, dans ce document-là, d'abord, le titre, c'était « Future Mask Off ».
OK.
C'était le titre du document. Puis, bref, c'était majoritairement des propos peu élogieux à l'endroit des juges concernés, des insultes. Puis, c'était surtout un ramassis de documentation sur les différentes décisions qui avaient impliqué ce juge-là quand il était avocat. Fait qu'on voyait qu'il y avait une recherche qui avait été faite là, assez prononcée sur l'individu.
Ouais, je peux répéter le mot lourd, je pense.
Puis le juge qui a témoigné, son identité protégée, lui disait d'abord, il pensait qu'il avait vu Zacharia une fois, mais dans le document, Zacharia Risky décrit avec précision toutes les fois où il a croisé la route du juge, et finalement, c'est 3 à 4 fois. Le juge s'en souvenait pas, et là, il comprend que ses moindres faits et gestes sont analysés et notés par, évidemment, l'accusé. Et puis, la portion la plus inquiétante, c'était les photos qui étaient liées à la fin du document. C'était des photos des corridors qui empruntent les juges dans leur bureau, des corridors qui sont réservés aux employés. C'était des photos du stationnement des juges avec certaines voitures qui appartenaient aux juges qui étaient là. Et il y avait même une photo d'une juge parmi les plaignantes là, à l'épicerie.
Tabarnouche! Et tout ça part de dossiers d'infraction au code de la sécurité routière?
Dans le cas du premier plaignant, oui. Les autres, on n'a pas encore été informés à ça, okay. À ça encore.
Mais ces dossiers, c'est tous des gens qui ont eu à interagir avec le type, là.
Oui.
D'une façon ou d'une autre.
Oui.
OK. Il se représente tout seul?
Il se représente seul.
Y a-tu parlé aujourd'hui?
Il parle tout le temps parce qu'il se représente seul. Donc, c'est lui qui gère un peu sa défense. Et aujourd'hui, c'était le contre-interrogatoire. Il faut savoir que c'est pas tous les accusés qui ont le droit d'interroger leurs victimes, là. Sinon ce serait chaotique là, et irrespectueux. Donc, c'est des avocats qui sont mandatés pour contre-interroger les plaignants à la place de l'accusé.
Même s'ils ne sont pas ses avocats à lui, là.
Non, l'accusé lui prépare des questions, puis les avocats qui sont désignés par la cour, là, c'est des gens que je vais le dire en nombre, sont très gentils et donnent de leur temps pour l'efficacité du système. Lui, ces avocats-là prennent les questions puis filtrent un peu qu'est-ce qui est légal de poser, qu'il ne l'est pas, et le livre de façon somme toute qu'il y a de l'allure pour que tout le monde comprenne. Et donc, le contre-interro a commencé aujourd'hui, puis on voit que les questions se dirigent vraiment. Monsieur Risquet est allé fouiller dans les anciennes causes que le juge a fait en tant qu'avocat. Puis a ressorti des passages et puis on voit qu'il y a une sous-entendue qui lui reproche d'être raciste, notamment. Puis il y a un cas où il était... Il a dit sur le banc, il lui a accordé une remise et puis... bref, il prend les propos du juge et les décortique de manière assez... impressionnante pour amener un petit peu son idée. Bref, lui, il pense qu'il a été peut-être piégé. Là,
y a-tu l'air d'un gars qui a toute sa tête?
Oui, il est apte à comparer.
OK.
En ouverture, la poursuite l'a décrit comme avec beaucoup de moyens, qui est très éloquent, mm-hmm. qui sait utiliser les mots.
Mm-hmm.
Donc, c'est le personnage.
C'est le moins qu'on puisse dire. Puis là, ça va durer combien de temps, ce
procès? Ça va durer 3 semaines. On a déjà pris du retard.
Il va étirer ça. Hein?
Les contre-interrogatoires sont longs. Puis on parle de juges et procureurs qui ont des horaires très chargés. Mm. Puis un juge, qui est un fait aussi intéressant, un juge a droit à un avocat à lui par le procureur général. Donc, il y a aussi ses interventions à elle qui sont prises en compte. Quand les questions débordent un peu sur la fonction de juge ou bref, qui pourrait l'amener à être mal à l'aise dans ses réponses, ben elle intervient aussi. Donc, il y a beaucoup de mouvement.
Ça va être long.
Ça doit durer 3 semaines. On ne peut pas vraiment dépasser. On a d'autres procès à faire.
Judith, on n'a pas eu le temps de se parler avant d'ouvrir les micros, mais moi, c'est un procès qui m'intéresse beaucoup, l'histoire du décaqué.
Ouais.
Est-ce que ça a procédé aujourd'hui?
Oui, il a plaidé coupable. Est-ce que vous avez parlé un petit peu?
Absolument pas, non.
Non, peut-être revenir au départ, puis il y a peut-être des gens qui savent de quoi on va parler. Moi, je veux juste glisser une parenthèse parce que ça m'avait donné froid dans le dos par curiosité. Quand cette histoire-là est sortie, je suis allé voir sur les sites de ligue de deck hockey, puis il y a une catégorie, il y a un onglet « suspension ».
Ouais.
Puis je suis allé voir le nombre de personnes qui étaient suspendues à vie ou pendant des années pour des histoires de violence, puis tout ça, et c'est ahurissant.
Ah ouais, il y en a beaucoup.
C'est incroyable. Ouais. Ça n'a pas de maudit bon sens. Je sais pas s'il y a du monde qui haïsse le vie, qui décide que c'est là qu'ils vont se défouler. Là, on va parler d'un cas extrême, mais des cas qui font que des gars sont suspendus pendant des années par la Ligue de Deck. Puis là, on parle d'adultes. Mm-hmm. Il y en a des tonnes et des tonnes. Le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est quoi?
C'est le cas de Kevin Bilodeau. C'est arrivé l'été dernier, en juillet 2024. C'était dans le cadre d'une partie dans le secteur de Beauport. Je pense que, puis là, je connais pas beaucoup le deck, là, mais c'est la ligue du secteur de Beauport qui organisait ça. Là. Mm-hmm. C'est très récréatif. Là.
Oui.
Je peux m'avancer en
disant ça.
Il y a personne qui gagne des trophées.
C'est pas une ligue nationale.
Là, beaucoup, voilà.
Non.
Et puis, durant la partie, le Kevin Bilodeau a été expulsé par l'arbitre pour comportement antisportif.
Mm-hmm.
Puis, décidément, l'homme n'a pas aimé la décision de l'arbitre. et il l'a menacé avec des propos que je répéterai pas ici, mais il avait le goût de lui en sacrer une, pour être plus poli. Puis, après avoir tenu ces propos-là, il a donné un premier coup de bâton au torse de l'arbitre et un second en plein visage. Et puis là, on l'a...
Fait que j'imagine qu'ils l'ont réintégré.
Oui.
Comment faire en sorte de donner raison à l'arbitre 8 fois plus sur la conduite antisportive? Là,
bon à ce moment-là, le joueur avait quitté les lieux et évidemment, là, tout a été arrêté. L'arbitre était très blessé. Il y a eu beaucoup de vidéos et de photos des blessures qui ont circulé parce qu'il y avait beaucoup de monde à ce match-là. Puis tout le monde était un peu scandalisé. Donc, ça avait circulé beaucoup. On avait vu l'état de la mâchoire et des dents de l'arbitre.
Les arbitres sont essentiels dans ces ligues-là parce que la plupart des gens, ils vont pour avoir du fun, mais une coupe de tête brûlée. Puis c'est ces têtes brûlées-là qui enlèvent le plaisir à tellement de gens. C'est... Je peux comprendre pourquoi ça a fait le tour.
Mais j'ajouterais aussi que ces arbitres-là ne sont pas là pour l'argent.
C'est pas une carrière. C'est
aussi, c'est d'un jeu pour eux là, d'être là et d'arbitrer. Enfin. Donc, il y avait eu une plainte rapidement. Le joueur en question a été rencontré. Il avait été accusé par voie sommaire, comme je vous disais tantôt, parce que lui aussi est à la cour municipale. Donc, il est à la cour municipale aujourd'hui. Il a plaidé coupable. On se retrouve en mars pour la peine parce que le procureur de la Ville de Québec veut demander une peine de détention ferme. Ça, c'est de la prison.
Et, même si c'est à la cour municipale.
Tout à fait. Ça, c'est souvent 2 ans moins un jour dans ce temps-là. Puis, évidemment, la défense s'impose. Donc, il y aura débat. Ils vont plaider. Puis, c'est la juge de la cour municipale qui va devoir décider quelle peine mérite.
Je n'avais pas vu les photos. Je viens de les voir dans ton article sur le site du Soleil.
J'aurais dû mettre un warning.
On parle
d'une mâchoire, mâchoire brisée, les dents déplacées.
C'est pire que McAvoy, là.
Les dents, on le sait, là, c'est cher chez le dentiste, là, se faire replacer les dents. La victime était là aujourd'hui, elle tenait à y être. On voit que c'est très difficile pour elle. Puis le procureur a aussi dit un mot là-dessus en disant à la juge, on aimerait ça que ce soit le plus rapidement possible pour la suite des choses parce que le plaignant, la victime a hâte de tourner la page et lui désire s'exprimer là-dessus. Ça fait déjà un an, là, ça fait un an et un an et demi là, quand il va s'exprimer en mois de mars. Donc, il veut s'exprimer sur quel impact ça a eu.
Les conséquences.
Et il y a l'impact, évidemment, sur les blessures physiques, mais aussi tout ce que ça a comme impact dans le monde du sport. Donc, ça va être très intéressant de l'entendre, je pense, au mois de mars.
Il y a de l'air de quoi l'accuser, lui, dans tout ça?
Il a peu parlé. C'est les avocats qui font le travail à cette étape-ci. Donc, il s'est contenté de plaider coupable et de quitter les lieux.
Y a-tu de la désinvolte ou...
Je pense qu'il a l'air très neutre. Je ne lui accorderai pas...
Ni d'intention d'un bord ou de l'autre.
Voilà. Ça a été très rapide. Pas de regard envers la victime. Pas de contact.
Judith, j'avais demandé aux filles pour que tu reviennes cette semaine en studio parce que j'ai lu le texte sur ton dossier de violence conjugale. Puis quand tu verses des larmes à lire un texte de ce genre-là, c'est parce qu'il y a des affaires vraiment touchantes qui méritent d'être racontées. Puis il y a un bout dans cette histoire-là où ça tord le cœur un homme accusé de voie de fait avec lésion.
Oui. C'est encore l'enfant qui t'a accroché.
Ouais, c'est ça.
Des cas de violence conjugale, des fois, c'est dur à traiter, puis c'est dur à décrire parce que, bon, les accusés sont... C'est des voies de fait qui leur sont reprochées. T'sais, c'est jamais écrit violence conjugale, là, on comprend dans le contexte. Puis c'est un homme, Jérôme Mur, il a été accusé de voies de fait simple, voies de fait lésion, voies de fait par étranglement, voies de fait armée. Donc, ça a été une relation de 10 ans là, avec sa conjointe très toxique, là, avec beaucoup de colère de sa part qui menait essentiellement à des coups. Et puis, ce qui t'a accroché, c'est au moment où cette femme-là avait déjà entamé un processus de vouloir dénoncer vers 2021. Elle était allée faire un séjour dans un centre d'hébergement pour femmes qui, d'ailleurs... on voit exactement leur nécessité dans ce type de cas-là. Elle s'était réfugiée là pendant 10 jours, avait réfléchi. Finalement, elle était retournée auprès de Jérôme Mur. Ils avaient établi des conditions pour revenir ensemble au conseil des gens qui sont dans ces ressources-là, au centre d'hébergement. Souvent, on fait ça quand on n'est pas prêt à tout mettre derrière. Et puis, on avait... La relation s'était poursuivie après ça avec les conditions et évidemment, le comportement violent de Jérôme Mur est revenu. Et Après ça, cette femme-là avait déjà parlé à une avocate. L'avocate lui avait déjà dit que ça prend des preuves, que souvent c'est sa version contre la sienne, puis qu'il faut être prêt à témoigner, puis il faut être prêt à assumer tout ça. Et puis en ayant ça en tête, un soir où la femme voyait bien là, que Jérôme Mur allait exploser parce qu'elle commence à le connaître avec mm-hmm. le temps, et elle avait décidé de partir l'enregistrement audio de son téléphone pour accumuler des preuves. Puis ça n'a pas été long que les preuves ont été recueillies. Et dans ce cas-là, c'est que ça a donné que l'enfant de la victime était sur place, une jeune enfant, une jeune fillette là, en bas de 5 ans. Puis sur l'enregistrement vidéo, on l'entend demander d'arrêter de taper maman. Parce qu'à cet âge-là, on ne dit pas frapper, on dit taper. Donc on voit que...
Puis,
la juge avait déjà cru la plaignante sur son témoignage qui était solide et pas d'amertume, mais elle a dit que ces propos-là étaient révélateurs d'entendre l'enfant dire ça.
Lui, sa défense, c'est une défense d'intoxication involontaire. Oui, ça a été... Je sais pas. Ça a été balayé du revers de la main. Là.
Oui, ça existe. Là. C'est une défense qui existe. C'est de l'intoxication involontaire. Jérôme Mur disait qu'à cause de douleurs chroniques, il prenait beaucoup de médicaments qui affectaient son humeur, ce qui n'est pas nié là, c'est probablement vrai, hein, dans le sens que oui, les médicaments qu'il prenait avaient certains effets secondaires. Donc lui disait qu'il n'avait jamais le bon médicament, qu'on ne lui avait pas prescrit comme il faut, que lui, il réagissait mal sur un tel médicament et tout, et que c'est pour ça qu'il aurait commis certains gestes. Parce qu'il disait que c'était vrai qu'il avait insulté sa femme, qu'il avait dit des propos qui étaient méchants, qui avaient été un peu dingues, puis qu'il pouvait être violent dans le sens qu'il pouvait peut-être frapper dans le mur, mais il niait l'avoir frappé elle.
J'ai vu des listes d'effets secondaires impressionnantes là, sur certains pots de pilules, mais des effets secondaires, taper sa femme, j'ai jamais lu ça nulle part.
C'est un peu ça. Puis la juge, d'une part, elle a tassé la défense parce qu'elle disait, vous admettez aussi que vous avez pas toujours pris les médicaments selon la posologie de un, et en plus, vous admettez que vous avez aussi consommé du cannabis avec ces médicaments-là. Donc déjà là, ça n'a pas lieu d'être parce que c'est plus involontaire. Et ensuite... De toute façon, elle ne croyait pas l'accusé. Elle ne le croyait pas quand il disait qu'il ne l'avait jamais frappé. Les preuves étaient trop importantes. Puis le témoignage de la femme était solide et il n'y avait aucun lieu de le balayer.
Ça brise le cœur. Hein? C'est incroyable que des jeunes enfants soient témoins de ça au point de le verbaliser puis au point de donner une preuve hors de tout
doute. Imagines-tu les traces que ça laisse dans sa vie après?
Regarde. Lui s'en va en prison.
Oui, la poursuite entend demander une peine de pénitencier. Donc, on s'est à suivre. Là, ça va être plaidé, ça aussi, dans les prochains mois. Et est-ce que tu veux me demander qu'est-ce qui est positif là-dedans?
J'ose même pas.
Y a-tu vraiment quelque chose de positif?
Il y a quelque chose de positif dans le sens où plus on parle de ces cas-là, plus certaines femmes peuvent se retrouver à travers ça et en être inspirées. Cette femme-là a vécu...
À se sortir d'une situation comme ça, de porter plainte,
oui, cette femme-là a vécu plusieurs années là-dedans, en voulant partir, en n'étant pas certaine, en revenant et puis en requittant. Et finalement, elle a réussi parce qu'elle était bien entourée de ses proches, de la maison d'hébergement, sous les conseils de son avocate. Finalement, elle est sortie de là. Fait que ça, c'est possible.
Ouais.
C'est le message. C'est possible. Il faut bien s'entourer. Ça va être difficile. Mais si jamais il y a des femmes qui sont prises dans des situations comme ça, c'est pas la fin.
Judith, merci beaucoup.
Merci à vous.
Judith Demel, qui est journaliste judiciaire au Soleil. 418-971-1021. N'hésitez pas à texter. Il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on rebondisse. Il y a de la circulation, des problèmes. Signalez-les, gênez-vous pas. Véro, il y a une nouvelle de dernière minute.
Exactement. Peu de surprises. Je te dirais, les observateurs avaient pas mal calé la shot. C'est au niveau fédéral. Stephen Guilbeault, qui était ministre de l'Identité et de la Culture canadienne, qui a démissionné du cabinet du gouvernement de Mark Carney. On s'en parlait dans les nouvelles un petit peu plus tôt aujourd'hui. On a donné officiellement le feu vert à un nouvel oléduc en Alberta. Puis il faut pas oublier que Stephen Guilbeault, qui lui s'était fait élire sous la gouverne de Justin Trudeau en 2019, c'est l'ancien cofondateur d'Équiterre. Il a occupé les postes du ministre du Patrimoine canadien. Mais lui, son cheval de bataille, ça a toujours été ce qu'était l'environnement, les changements climatiques. D'ailleurs, il a été à l'environnement de 2021 à 2025. Il demeure, par contre, député. Il demeure député au sein du caucus libéral aussi. D'ailleurs, le Parti libéral du Canada, qui est seulement à 2 voix de la majorité, fait que s'il fallait qu'il perde un député déjà, ça changerait en partie la donne. Donc, Stephen Guilbeault qui ne sera plus ministre.
Avez-vous vu le post de la ville de Repentigny concernant une murale? C'est donc bien triste, ça. On aurait préféré vous parler d'autre chose aujourd'hui. La murale qui rend hommage à Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants, qui a été vandalisée hier. Elle est en cours de nettoyage et des retouches seront être faites au printemps pour la restaurer. Chaque fois qu'un geste malheureux comme celui-ci se produit, ce n'est pas qu'un mur qui est abîmé, c'est un espace public, une œuvre d'ici, un héritage commun. Ces murales font rayonner nos artistes locaux et reflètent notre collectivité. Les protéger, c'est préserver ce que nous sommes comme communauté. Merci à toutes les personnes qui nous signalent les actes de vandalisme et qui contribuent à garder notre ville propre, belle et fière. Donc, une murale en hommage au chanteur des Cowboys fringants qui a été vandalisé dans les dernières heures. Ça continue de bien aller. 16h32, on s'arrête, on vient.
Gravel, dans le retour.